Mondial Sport sur RFI. Antoine Grenier.
Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Mondial Sport du samedi. Deux envoyés spéciaux dans cette édition. À Nice pour le France-Brésil de foot féminin. À Saint-Denis pour le France-Afrique du Sud de rugby. Bonsoir Hugo Moissonnier.
Bonsoir Antoine, bonsoir à tous.
En retour avec vous tout à l'heure sur le sacre de l'Espérance de Tunis, vainqueur de la Ligue africaine des champions. Mondial Sport, émission réalisée ce soir par Valentin Vaner et Tiffany Manta. Le coup d'envoi, c'est maintenant. Et on débute cette émission par un petit crochet par Saint-Denis et le rugby où on retrouve Cédric De Oliveira pour ce France-Afrique du Sud. Cédric, on a dépassé l'heure de jeu entre les deux nations et ce sont pour l'instant les Français qui tiennent les commandes.
Et alors effectivement, bonsoir Antoine, bonsoir à tous, c'est les Français qui sont devant, mais alors c'est très indécis le résultat de cette rencontre puisque eh bien pour l'instant ils mènent 23-22. Honnêtement, on a du mal à vous dire qui pourrait être le vainqueur de ce match tant eh bien les Bleus surtout sont inconstants. Ils avaient pourtant rejoint la pause avec l'avantage 16-9, notamment grâce à un essai de Guilhem Guirado en toute fin de première période. Mathieu Bastaro a ensuite marqué d'emblée au retour des vestiaires et s'est transformé par Baptiste Serin, du coup 23-9. On se dit que ce 15 de France est bien parti pour remporter sa première victoire depuis le mois de mars. Mais voilà, sur le renvoi des Sud-Africains, ballon cafouillé par la défense française et récupéré par l'ailier Sibou Sisso Nkosi qui en a profité, lui qui a déjà marqué la semaine dernière face à l'Angleterre à Twickenham. Et comme l'ouvreur des box, André Pollard réussit absolument tout ce qu'il tente, à droite, à gauche, parfois avec l'aide du poteau. Et bien les Sud-Africains sont tranquillement revenus à un point des Bleus, 23-22 donc pour l'instant, alors qu'on joue la 64e minute ici au Stade de France.
On reviendra vers vous Cédric De Oliveira pour parler de ce match France-Afrique du Sud et des Bleus qui vont devoir donc batailler pour remporter leur premier succès face aux Springboks, premier succès depuis 2009 attendu. Allez, maintenant petit crochet par Nice et le football féminin. Bonsoir Eric Chorin.
Bonsoir Antoine, bonsoir Hugo.
Vous, c'est indécis du côté du rugby. Pour vous, c'est beaucoup moins indécis entre les Françaises et les Brésiliennes.
Ah oui, parce qu'à l'instant, les Bleus viennent de marquer leur troisième but face aux Brésiliennes. 3-0 après 75 minutes de jeu. Un coup franc tiré par Amel Majri côté droit avec son pied gauche qui atterrit sur la tête de la grande Wendy Renard, la joueuse de la défense centrale tricolore qui a expédié ce ballon dans le but de la gardienne brésilienne Aline. Troisième but pour des Bleus qui avaient marqué le deuxième juste après la reprise de la deuxième période. Un coup franc tiré directement par Élise Busaglia. Alors qu'on s'attendait à un coup franc plutôt indirect, il a touché le dessous de la barre puis la gardienne brésilienne malheureuse sur ce coup-là. Et puis l'ouverture du score, elle était intervenue dès la 23e minute sur un très beau travail côté gauche d'Amel Majri, intenable, la lyonnaise, avec Cathy Diatou Diani qui avait trouvé Cascarino dont la frappe en demi-volée avait permis aux Bleus d'ouvrir le score. Et pourtant en face, c'est quasiment l'équipe type du Brésil. Il manque Marta, évidemment la star des Brésiliennes, mais il y a de très bonnes joueuses sur la pelouse. Elles ont posé quelques problèmes aux Bleus, notamment avec un coup franc d'Andressa Silva qui a atterri sur la transversale de la gardienne des Bleus, Boadi, Sarah Boadi. Mais 3-0 pour cette équipe de France bien organisée ici à Nice face aux Brésiliens. Attention, cette frappe brésilienne dans la surface de réparation et la sortie de Sarah Boadi qui a dévié ce ballon en corner. Elle est touchée d'ailleurs, Sarah Boadi. Les Bleus qui contrôlent donc bien ce match, le dernier avant le tirage au sort de la Coupe du Monde féminine qui aura lieu début décembre.
Éric Chorin en direct de Nice, on reviendra également vers vous lors de cette émission, Eric, pour suivre ce France-Brésil. C'est toujours une affiche, même en football féminin. Allez, on passe au championnat en Europe à présent. Et si le suspense revenait en Allemagne? Après ce soir, c'est plus qu'une éventualité, c'est une certitude. Ce soir, le Bayern Munich, sextuple champion en titre, est relégué à 7 points du leader, le Borussia Dortmund, son bourreau dans cette 11e journée. Défaite 3-2 que l'on va débriefer avec vous, Julien Méchaussier. Bonsoir.
Bonsoir Antoine.
Julien, on dit défaite du Bayern, c'est surtout une victoire du Borussia dans un match superbe qu'il fallait absolument regarder avec des buts et des retournements de situation.
Oui, hein, clairement, le match hein, de ce début de saison avec un scénario de départ qu'on n'avait pas vu depuis 6 ans, hein, rendez-vous compte, c'est la première fois depuis 2012 que Dortmund recevait le Bayern en étant devant son adversaire au classement. Alors, vous l'avez dit, hein, on a eu des buts, une grosse intensité, et c'est le Bayern qui a largement dominé la première mi-temps. Les Bavarois, dans le registre que l'on connaît, hein, tout en maîtrise, en possession de balle, une domination récompensée sur une tête plongeante de Lewandowski, qui est un score de 1-0 à la mi-temps pour le Bayern. Dortmund presque passif malgré quelques situations chaudes a rectifié le tir au retour des vestiaires et on a retrouvé très vite l'explosivité des hommes de Lucien Favre symbolisé par le jeune anglais Sancho sur son côté droit. Après l'égalisation de Royce sur penalty, c'est Lewandowski qui redonne l'avantage aux Bavarois, encore de la tête, et là derrière on a eu le droit à la furia de Dortmund, un jeu à 100 à l'heure, et c'est encore un Paco Alcacer, une nouvelle fois décisif, après être sorti du banc qui égalise, et Royce lui aussi auteur d'un doublé qui donne la victoire aux jaunes et noirs, et on a vraiment vraiment eu droit à du très grand spectacle ce soir. Antoine, c'est le retour de la Bundesliga comme on l'aime, tout simplement.
Alors Julien, pour faire un bon match, il faut deux bonnes équipes. D'ailleurs ce soir, même battu, le Bayern n'a pas démérité, il a même été plutôt bon.
Un très bon Bayern, hein, peut-être même le meilleur Bayern depuis ce début de saison, mené deux fois face à Dortmund au Signal Iduna Park, c'est une vraie grosse performance, et surtout on a enfin vu des Bavarois jouer en équipe, enfin solidaires, avec des cadres qui ont répondu présent à l'image du duo Ribéry sur le côté droit, Lewandowski bien sûr avec un doublé, et même Thomas Müller à la rue, hein, depuis le début de saison, qui s'est battu, qui a retrouvé ses vertus de leader, mais voilà, ça n'a pas suffi, hein, face à Dortmund qui reste invaincu après 11 journées et qui démontre une nouvelle fois que le club est parti pour faire une très très grande saison.
Dortmund était tout simplement plus fort ce soir, ça confirme son excellent début de saison. Lucien Favre, le coach du BVB, a un plan B et puis il a surtout des possibilités que Niko Kovac, son homologue bavarois très menacé ce soir, n'avait tout simplement pas.
Oui, c'est sûrement ça, hein, l'enseignement le plus important de ce soir, Antoine. Lucien Favre démarre ce soir avec un milieu au profil très défensif, aux côtés d'Axel Witsel, c'était Julian Weigl. Résultat, un BVB trop attentiste en première mi-temps. Lucien Favre fait alors rentrer le jeune Mahmoud Daoud, plus porté vers l'avant, et ça marche tout de suite, hein, avec ce penalty transformé par Royce. Autre choix fort de Favre, la sortie de Mario Götze, placé une nouvelle fois en faux numéro 9 avec Marco Reus très proche de lui. On se rappelle, hein, ça avait bien marché au match aller face à l'Atlético Madrid en Ligue des Champions, mais on sait, hein, Reus est un joueur qui a besoin d'espace, qui aime partir de loin. Favre corrige tout ça en faisant rentrer l'attaquant espagnol Paco Alcacer, ce qui permet donc à Marco Reus de reculer, et là encore, ça fonctionne tout de suite avec un but d'Alcacer. C'est la 5e fois qu'il rentre en jeu cette saison, la 4e fois qu'il marque, il en est déjà à 8 buts, et donc derrière Reus qui renverse la rencontre, un banc et sur surtout des idées, comme vous l'avez dit, que Niko Kovac, l'entraîneur du Bayern, n'a clairement pas.
Et je le disais en ouverture, Julien, enfin une vraie course au titre en Bundesliga.
On le sentait, hein, depuis quelques semaines, et on va pas vous mentir, on a tous envie d'y croire ici, d'avoir enfin un peu de suspense jusqu'au mois de mai. Et ce soir, on est fixé, hein, avec 7 points d'avance sur le Bayern. Cette jeunesse triomphante et la magie de Lucien Favre, hein, y a pas d'autre mot. Ce Dortmund-là a les moyens d'aller loin, même très loin. Alors que de l'autre côté, on a un Bayern qui en est déjà à sa 3e défaite en seulement 11 matchs. Et vous l'avez évoqué tout à l'heure, hein, l'avenir de Niko Kovac qui va forcément être dans tous les journaux dans les prochains jours. Et ce soir, le Bayern est seulement 3e au classement à 3 points de Mönchengladbach, désormais 2e. L'autre Borussia, vainqueur dans l'après-midi sur le terrain du Werder Bremen, grâce à un triplé du français, l'ancien niçois Alassane Plea, meilleur buteur, hein, de Bundesliga avec Royce et Alcacer, 8 buts tous les 3. Mais ce soir, Antoine, la Bundesliga a un nouveau patron, et ce patron est en jaune et noir.
Dortmund donc, merci Julien Méchaussier en direct de Berlin. Une ambiance de folie lors de ce match Dortmund-Bayern. Ambiance qui aurait plu à mon voisin de gauche, Hugo Moissonnier, qui adore ce stade de Dortmund. Ça, c'était pour le petit clin d'œil. Allez, en France, la 13e journée de Ligue 1 avait commencé timidement hier. Un nul 0-0 entre Lille et Strasbourg. Elle a repris sur les chapeaux de roue ce samedi. 6 buts entre Guingamp et Lyon, mené 1-0 à la mi-temps. Les Gaunes ont réagi, et de quelle manière, sur le terrain des Bretons. Victoire 4-2 grâce à un festival rival de Memphis Depay. 2 buts, 2 passes décisives pour le Néerlandais. L'OL solide 4e au classement, 1 point derrière des Montpellierains, battu 1-0 par Angers, c'est la petite surprise du soir, et 1 point devant Saint-Étienne, vainqueur de Reims, 2-0. 3e victoire de rang pour Nice, désormais 6e, cette fois aux dépens de Nîmois, réduit à 9 dès la fin de la première période. Enfin, Toulouse n'avance plus, à nouveau battu, cette fois par Amiens, 1-0. Demain, évidemment, chacun attend le choc de cette 13e journée entre un Paris Saint-Germain impérial et un Monaco loin d'être princier. Le premier incontestable face à un 19e inguérissable malgré l'arrivée de Thierry Henry, l'entraîneur monégasque conscient de la difficulté de la tâche, et il veut que son équipe affiche au moins un état d'esprit exemplaire.
C'est vrai qu'en ce moment on passe une période difficile. Il va falloir essayer de faire un gros match, même si c'est vrai à l'heure actuelle vous allez me dire peut-être que ça peut paraître difficile. On va essayer de les gêner. Déjà que c'est pas évident, même avec le 11 titulaire. Donc c'est vrai qu'avec une équipe amoindrie et pas mal de jeunes, ça devrait être beaucoup plus dur. C'est vrai que quand tu joues le PSG, personne s'attend à qu'une équipe prenne des points. Et je pense encore moins pour certaines personnes quand ça parle de nous à l'heure actuelle. Mais je pense que vous avez vu comme aussi des matchs de coupe, des fois où une équipe devait battre une autre à plat de couture et ça s'est pas passé. Donc voilà, il faut qu'on arrive à rendre ce match un peu en match de coupe.
Thierry Henry. Et puis Bordeaux voudra se sortir de sa mauvaise passe en recevant Caen. Les Bordelais scotchés en 2e partie de classement, 12e, et qui reste sur 2 défaites et 1 nul. Spirale négative aussi pour Marseille, battu 2 fois sur ses 2 dernières sorties en championnat. L'OM qui accueille le 18e Dijon. Enfin Nantes, les jaunes ont reverdi avant leur déplacement à Rennes. En Angleterre, 12e journée, Tottenham s'est bien relevé de sa défaite contre City. 2e victoire de suite pour les Spurs depuis leur revers 1-0 contre les Citizens. Cette fois c'est Crystal Palace qui a plié face à Harry Kane et consort, but de Juan Foyt. Seule victoire à l'extérieur de ce samedi d'ailleurs, puisque les autres succès ont été acquis à domicile. Newcastle a dominé Bournemouth 2-1, même score pour Cardiff face à Brighton. 2e victoire de l'année pour les Gallois. Pour le reste, 3 matchs nuls, 1 partout entre Southampton et Watford, 1 partout entre Huddersfield et West Ham, enfin 0-0 entre Leicester et Burnley. Demain, les gros seront de sortie. Liverpool recevra Fulham, Chelsea jouera contre Everton, Arsenal accueillera Wolverhampton. Enfin, le choc évidemment, ce sera le duel des Manchester entre City et United. On y reviendra bien sûr dans Mondial Sport de dimanche. Tout comme on revient maintenant au foot féminin et à ce France-Brésil avec vous, Eric Chorin. On approche de la fin de la rencontre et les Françaises ont le gouvernail bien en main.
Ah oui, elles le tiennent bien, ce gouvernail, à la 86e minute de ce match. 3-0 pour les Bleus. On l'a dit en première période, Delphine Cascarino qui marquait tout simplement son premier but en bleu après sa 6e sélection. Il y a eu ensuite ce coup franc d'Elise Busaglia, l'expérimentée joueuse du milieu de terrain de Barcelone et de l'équipe de France. Elle, c'était son 29e but, et Wendy Renard qui a donc marqué de la tête. Alors, est-ce qu'il a été dévié par une joueuse brésilienne ensuite pour tromper la gardienne brésilienne Aline? On le saura un peu plus tard, mais c'est bien la tête de Wendy Renard qui a fait le travail. C'est son 20e but en bleu. 3-0 pour cette équipe de France qui est donc bien partie pour remporter son 7e match de rang. Elle n'a plus perdu depuis le mois de mars face à l'Angleterre, et Corinne Diacre souhaitait justement avoir de l'adversité ce soir. Elle aurait même aimé voir une équipe de France réagir face à des Brésiliennes qui auraient ouvert le score. Ça n'a pas été le cas. Ce sont les Bleus qui ont mené avec cette grosse organisation au milieu de terrain, avec un milieu de terrain quasiment à 4 joueuses, avec les latérales qui montaient très haut, notamment Amel Majri et Marion Torrent de l'autre côté, qui ont permis d'étouffer un peu le milieu de terrain brésilien et de confirmer que les Bleus tiennent bien la barre et qu'elles sont en bonne voie pour leur Coupe du Monde féminine en France. À noter l'entrée tout à l'heure de Marie-Antoinette Katoto, la jeune joueuse du Paris Saint-Germain. C'est tout simplement la meilleure buteuse de la première division et c'est sa première sélection ce soir. On sent qu'elle a de l'appétit, mais pour l'instant, elle n'a pas encore marqué.
Éric Chorin, en direct de Nice. Autre envoyé spécial, Cédric de Oliveira. On vous a entendu tout à l'heure, Cédric. On va vous réentendre. Les Français menaient quand on vous a entendu un petit peu plus tôt. Est-ce toujours le cas sur leur pelouse de Saint-Denis face à l'Afrique du Sud?
Oui, c'est toujours le cas, et maintenant ils mènent même 26-22. Voilà, ça fait 4 points d'avance donc à un peu moins de 10 minutes de la fin du match. 26-22 depuis une pénalité de Baptiste Serin suite à un énorme plaquage à retardement de Declercq, le demi de mêlée sur Camille Lopez, le demi d'ouverture. Nigel Owens, l'arbitre de la rencontre, qui a donc sifflé pénalité transformée par Baptiste Serin. 26-22, les Bleus qui sont passés tout près de la correctionnelle il y a quelques minutes suite à une action incroyable de l'Afrique du Sud et notamment du petit ailier toulousain Cheslin Kolbi, eh bien qui a longé la ligne de touche et qui a bien cru marquer l'essai, qui aurait donc permis à l'Afrique du Sud de passer devant. Mais voilà, Arthur Ituria a fait un sauvetage incroyable. Voilà, il a empêché Cheslin Kolbi d'aller aplatir dans le but au dernier moment. Donc ça fait toujours 26 à 22 pour les Bleus, alors qu'il reste un peu plus de 9 minutes à jouer et qu'il y a une mêlée à 40 mètres du camp français. Mêlée introduction Afrique du Sud.
Cédric De Oliveira, ça aurait peut-être mérité un petit jaune d'ailleurs, cette charge de Clercq sur Camille Lopez dont vous avez parlé un peu plus tôt. Mais on en reste à 15 joueurs face à 15 joueurs pour l'instant dans cette rencontre entre la France et l'Afrique du Sud. Allez, football en Afrique, cette fois avec vous Hugo Moissonnier. C'est un sacre inattendu, ou en tout cas loin d'être acquis, que s'est offert l'Espérance de Tunis vendredi soir. Une remontada à la tunisienne en Ligue des Champions de la CAF.
Et ce, face au grand Al Ahly du Caire, le club aux 8 sacres continentaux. C'est peu dire que la manche aller en Égypte avait frustré les Tunisiens. Ils avaient été battus 3, encaissant notamment 2 pénaltys très litigieux, validés malgré l'assistance vidéo à l'arbitrage. Mais ce vendredi soir, devant leurs supporters dans la banlieue de Tunis, dans un stade de Rades en fusion, ils ont parfaitement renversé la vapeur, les joueurs de l'Espérance. Succès indiscutable, 3-0. Saad Begir, buteur juste avant la pause, puis peu après le retour des vestiaires, a donné l'avantage au son et or. Et puis Anis Badri, meilleur scoreur au passage de cette Ligue des Champions avec 8 réalisations, a enfoncé le clou en fin de partie. 3e titre de champion d'Afrique pour l'Espérance de Tunis, après les sacres de 94 et de 2011. 3e titre de champion et soirée inoubliable pour les supporters. Reportage Michel Picard.
2 heures avant la rencontre, les chants résonnaient déjà dans le stade olympique. Affluence record, depuis la révolution de 2011, au moins 55 000 supporters sont venus soutenir l'Espérance et croire à l'exploit. L'antre emblématique de Rades s'est embrasé à plusieurs reprises. Puis dès le coup de sifflet final, ce fut l'explosion de joie.
C'était pas du joueur, c'était des gladiateurs sur terrain.
Alhamdoulilah, maintenant, on a gagné, on va toujours gagner. Il ne gagnera plus l'Égyptien.
La VAR, l'assistance vidéo à l'arbitrage, avait été utilisée plusieurs fois par l'arbitre du match aller, ce qui ne l'avait pas empêché de siffler des pénaltys litigieux, entraînant la colère des supporters tunisiens qui n'osaient croire dans une remontada.
Une historique remontada.
L'Espérance, c'est un grand pays, c'est une grande culture.
Mais voilà, alhamdoulilah, on a gagné. Grâce aux joueurs, aux spectateurs.
Pas besoin de VAR.
Nous sommes le plus fort, voilà.
On a fait la fête.
Ouais.
On est les rois de l'Afrique. Malgré tout ce qu'ils ont fait en Égypte, et on les a battus. Score et manière. 0 occasion pour l'équipe Alaouite. On est les champions.
J'ai jamais vécu une victoire aussi bonne que celle-là, parce que c'est l'anniversaire de l'Espérance.
2 mois avant de fêter son centenaire face à une grosse écurie européenne, le club de la capitale tunisienne ne pouvait rêver mieux. L'équipe revient de loin, peu de grandes stars parmi ses joueurs, mais le mental, la volonté et le travail en groupe ont porté les sang et or sur le toit de l'Afrique.
On a fait beaucoup des occasions. Ils ont connu comment placer au terrain. On a des petits joueurs, petit à petit, ils ont avancé et maintenant ils ont un champion.
Yaoudi, c'est très bien. Karachi,
on a 11 lions.
Dans le contexte économique et social morose que connaît le pays, cette victoire offre un bol d'air et une parenthèse enchantée à la Tunisie.
C'est une grande fête pour le peuple tunisien, pour la Tunisie. Quand quelque chose apporte la joie, on oublie tout. On oublie la fatigue, on oublie la misère.
Des dizaines de milliers de supporters ont fêté une bonne partie de la nuit ce 3e titre de Ligue des Champions et ce 9 novembre restera ancré dans bien des mémoires.
On a gagné, alhamdoulilah, on va faire la fête jusqu'à demain, inchallah.
Une formidable soirée, ça fait 8 ans qu'on n'a pas fait et ce soir on l'a fait. Nous sommes très heureux, très contents.
Michel Picard, Rades, RFI.
Rades, où un important dispositif sécuritaire avait été déployé hier. Tout n'a pas été parfait pour autant en termes d'ambiance. Le bus du Al Ahly aurait notamment été caillassé avant la rencontre et un joueur du club égyptien touché.
Une soirée difficile donc pour les joueurs du Al Ahly comme pour les supporters au pays.
Leur équipe semblait bien partie pour améliorer son propre record, grimper une nouvelle fois sur le toit de l'Afrique patatras. Aujourd'hui, les fans du Al Ahly sont amers. Frédéric Nkunar.
Au Caire, au lendemain de la finale de la Ligue des Champions, perdue par Al Ahly, les Égyptiens ont la gueule de bois. Il s'était pourtant préparé hier à vivre une nuit dans la liesse pour fêter le 9e sacre des Diables Rouges. Au contraire, ils ont vécu une terrible désillusion.
Franchement, personne ici n'imaginait un tel résultat. Il n'y a aucun leader, aucun bon joueur dans cette équipe. Ali avait peur, n'avait aucune agressivité pour attaquer ou pour défendre. Franchement, je n'arrive pas à comprendre cette différence de niveau entre le match aller et le match retour.
J'estime que Al Ahly méritait de s'adjuger le trophée. Son parcours avait été impeccable. Mais mes espoirs se sont évanouis à cause d'une équipe complètement défaillante à tous les niveaux en finale.
La blessure d'Ahmed Fatih à l'aller et la suspension de Walid Azaro ont pesé hier. Mais je restais quand même optimiste. Al Ahly nous a offert une prestation horrible. En plus, le but de l'Espérance de Tunis dans les arrêts de jeu de la première mi-temps nous a vraiment fait mal. J'espère que Al Ahly s'en remettra.
En Égypte, les images des dégâts provoqués par le caillassage du bus du Al Ahly à Rhades juste avant la finale, blessant au passage le milieu de terrain Mohamed Hicham, continuent à tourner en boucle. Toutefois, les supporters égyptiens préfèrent pointer du doigt le manque de caractère affiché par Al Ahly pendant la finale.
Il y avait très peu de supporters égyptiens présents à Rhades. L'épisode du bus n'a pas aidé, mais l'Espérance a surtout pu faire la différence grâce à ses nombreux fans.
Nous sommes allés à Rhades avec un esprit de perdant. Nous voulions gérer notre avance comme si l'équipe savait qu'elle était destinée à perdre cette finale.
Les espérantistes étaient déterminés et savaient ce qu'ils avaient à faire, alors que c'était la première fois que je voyais Al Ahly jouer avec la peur au ventre.
Suite à cette terrible désillusion, les supporters appellent à une refonte de l'équipe en commençant par des renforts.
J'en veux au coach, on joue sans idée, sans plan d'attaque, sans stratégie défensive. Nous n'avons pas de stars. C'est comme si Al Ahly ne jouait pas au football.
Nous avons besoin de 109 dans cette équipe et il faut arrêter avec cette stratégie défensive. C'est ce qui nous fait perdre.
Pour l'instant, c'est le silence radio du côté de la direction du Al Ahly. Mais des changements pourraient intervenir très prochainement. Frédéric Quena, Le Caire, RFI.
Et après la Ligue des Champions, place à la Coupe de la Confédération, finale aller entre le Raja Casablanca et la SV Club de Kinshasa, dans à peu près 2 semaines au Maroc. Allez, le foot africain Hugo, mais pas que, qui a été marqué par une nouvelle feinte de l'inusable Didier Drogba.
Oui, l'ex-capitaine des éléphants de Côte d'Ivoire maîtrise les fausses pistes. À 40 ans, l'ancien buteur vedette de l'OM et de Chelsea semblait sur le point de prendre sa retraite hier, après une finale perdue aux 2e division nord-américaine, mais il a pris beaucoup d'observateurs à contre-pied via un message posté sur les réseaux sociaux, retraite, 3 points d'interrogation et une vidéo, un extrait du Loup de Wall Street, le film de Scorsese. DiCaprio dit « Je ne pars pas ». Ce retournement de situation n'a pas échappé à ses amis et supporters à Abidjan, Youen Gourli.
En Côte d'Ivoire, Didier Drogba est une superstar, c'est incontestable. Mais après toutes ces années, certains ont un peu de mal à suivre sa carrière.
Vous avez suivi ce qu'il a fait là cette année ?
Non, même pas.
Vous avez suivi ?
Didier Drogba ? Non. Normalement, lui, il joue au Canada maintenant.
Raté, l'attaquant ivoirien a passé l'année au Phoenix Rising en 2e division américaine, ce qui devait être son dernier club et sa dernière saison. Mais Drogba laisse encore planer le suspense. À Abidjan, le club du WAC dont l'attaquant ivoirien est actionnaire recevait cet après-midi l'équipe de San Pedro. L'occasion de parler de l'avenir du meilleur joueur ivoirien de l'histoire. Dans les tribunes, l'ancien international Guidi Ignace voit en lui un modèle, quoi qu'il décide.
Même à 40 ans, à 42 ans, à 43 ans, bon, s'il sent, il se sent mieux, il peut continuer de jouer. Parce qu'il nous apporte beaucoup de sa popularité. Et puis il nous apprend qu'à 42 ans, à 40 ans, on peut continuer de jouer. C'est une idole.
Ici, chacun a son avis sur la question. Pour Ousmane Ouattara, le capitaine des Oranges et Noirs de San Pedro, Drogba a fait son temps.
Oui, selon moi, je pense que Didier l'a tout donné au monde entier. Voilà, en passant par la Côte d'Ivoire, par Chelsea, Galatasaray. Donc là, je pense qu'il est bien pour arrêter la carrière maintenant, parce qu'il a tout remporté.
Guillaume Aoutou, le speaker de la rencontre de Ligue 1 ivoirienne, pense lui aussi qu'il faut dire stop et se consacrer à des projets plus importants.
Moi, j'aimerais le voir s'arrêter, prendre des responsabilités. Il est ambassadeur de Chelsea, qu'il vienne jouer son rôle et même qu'il continue à faire ce qu'il sait faire, comme il a fait en construisant un hôpital.
Dans le bar jouxtant le stade, Bonny préfère regarder Leicester Burnley à la télé. Il boit une Drogba, le surnom donné à la plus grande bouteille de bière du pays.
On l'a donné ce nom parce que c'est lui qui nous a fait revivre par rapport à l'équipe nationale, donc grâce à lui. Elle lui a donné le nom, le Drogba.
À ses côtés, Fabrice et Arsène, des fans de foot qui n'ont qu'un rêve en tête.
Comment il pourrait finir ? C'est qu'il revient au pays et nous dit
moi je vais tenir l'équipe nationale pour qu'on sache que il a fini vraiment en beauté.
Dans son bureau de l'AFI, l'association des footballeurs ivoiriens, Cyril Demoreau, ancien capitaine des éléphants, n'a pas beaucoup plus d'informations sur les velléités de son ancien équipier.
Je l'ai eu il y a deux mois. On avait échangé et il me parlait de mettre un terme à sa carrière. Maintenant, il y a toujours cette envie-là de continuer. Et je pense que c'est un champion, donc les champions sont différents des joueurs moyens.
Le champion ivoirien n'a pas encore parlé d'un club en particulier. Certains le verraient bien à Marseille. La réponse se trouvera sans doute dans son prochain tweet. À Abidjan, Youen Gourlet, RFI.
Et c'est là-dessus que se referme cette page foot africain. Merci Hugo Moissonnier. Allez, on va à Nice avec Eric Chorin. L'équipe de France s'impose face au Brésil.
Ouais, une victoire 3-1 finalement, parce que dans les flottements qu'il y a souvent en fin de match avec les nombreux changements, la défense française a laissé passer Darlène et Esselé. Une belle frappe croisée lourde qui a permis donc aux Brésiliens de réduire le score ici. Ça n'empêche pas les Bleus de remporter leur 7e victoire de rang après l'Allemagne, le Nigeria, le Canada, le Mexique, l'Australie, le Cameroun. C'est donc le Brésil qui s'est incliné. La seule fausse note, c'est ce but encaissé en fin de match, puisque les 6 matchs précédents, elles n'avaient encaissé aucun but. Les Bleus, ça n'empêche pas qu'elles ont livré une partition solide ce soir qui devrait satisfaire Corinne Diacre. On va le soir savoir très très bientôt quand on va la retrouver en zone mixte.
Merci Eric Chorin. Allez, on finit avec le tennis, c'est le point d'orgue de la saison. Le Masters masculin s'ouvre ce dimanche à Londres. Deux absences majeures à déplorer, celle de Rafael Nadal et Juan Martín Del Potro, blessés. Des forfaits que regrette l'ancien joueur marocain Younes El Aynaoui. Il est interrogé par Eric Mamrut.
C'est sûr que vu le calibre et ce qu'ils ont proposé toute l'année, spécialement Nadal et aussi Juan Martín Del Potro qui a réussi un comeback fabuleux. Je crois que le Master, on veut vraiment voir les meilleurs joueurs. Malheureusement, c'est la difficulté du circuit toute l'année. Ces dernières années, on a souvent vu des joueurs blessés. On avait vu Federer qui avait abandonné en finale une année aussi au Master. Donc là, effectivement, ça laisse un petit goût amer que Nadal soit pas là, que Juan Martín aussi ne soit pas là, mais il y a quand même de quoi faire.
Et il y a notamment Roger Federer et Novak Djokovic, favoris logiques de cette édition.
Ouais, je crois que un petit plus du côté de Novak, mais vraiment un tout petit, parce que je crois que voilà, les passionnés de tennis ont dû voir cette demi-finale à Bercy la semaine dernière, un 7-6 au troisième, au couteau, une finale avant l'heure. Donc c'est vrai que la finale rêvée du Master, ça serait Federer-Djokovic. Mais il y a quand même du beau monde dans les groupes et il va falloir s'extriper de ces groupes, surtout en essayant de perdre le moins de force possible pour arriver frais demi-finale, finale.
Alors des outsiders, on va en trouver quand même, il doit en avoir. Qui pourrait se mêler à la lutte entre Djokovic et Federer ?
C'est vrai que c'est un cran en dessous, mais il faut se méfier. On a des joueurs qui ont été régulièrement en finale de Grand Chelem, pour ne pas citer Kevin Anderson, Kei Nishikori aussi. Ce sont des joueurs qui ne vont pas se contenter de faire figure. Ils sont là aussi pour gagner, pour tenter le tout pour le tout. Et ce n'est pas facile quand on est favori comme Djokovic et Federer d'affronter ces gars-là qui n'ont rien à perdre et qui peuvent vraiment, sur un match, un Marin Cilic qui est vainqueur de Grand Chelem. Il y a vraiment le gratin du tennis. Donc, ce n'est pas des matchs faciles. Il n'y a que des beaux matchs en fait au Master, c'est des matchs très équilibrés, donc c'est une qualité vraiment à un très très haut niveau.
Un regard sur Kevin Anderson, c'est sa meilleure année, il a fait finale à Wimbledon, il est 6e mondial. Qu'est-ce qu'il peut faire à Londres, à Masters qu'il va découvrir ?
Il est chez lui déjà, puisqu'il réside à Londres. On sait que les Sud-Africains ont beaucoup d'attaches avec la capitale anglaise. Et c'est un joueur qui a un style de jeu très agressif, avec un gros service, qui va chercher le point, qui peut faire des winners en coup droit ou en revers. Il l'a montré à Wimbledon, il l'a montré à l'US Open. Et je crois qu'à la maison, il va être dur à battre, surtout qu'il arrive relativement frais, puisque à Bercy, il a perdu, je crois, en quart de finale.
Et Younes El Aynaoui, le Marocain. On se retrouve demain pour un nouveau mondial.